Vous êtes sur l'une des trois fréquences de Radio Fusion, 95.3, 103.2 ou encore 99.3. Voici Salon Privé, il est 21h. 21h, c'est Salon Privé jusqu'à 23h. Dans le studio Georges Debs, où nous sommes installés, mon invité et moi. Mon invité, un personnage public, un musicien incontournable, véritable bible de la musique martiniquaise, mais il n'en est pas moins discret et d'une exemplaire humilité. Daniel Raveau, puisqu'il s'agit de lui, est cofondateur de La Perfecta. La Perfecta qu'il n'a jamais abandonnée. Des décennies durant, il a géré hommes et musique d'un groupe auquel le public de Martinique est resté profondément attaché. Daniel, dont nous souhaitons ce soir en savoir plus. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Ignace, heureux d'être avec toi.
Je n'ai rien dit de mal dans mon introduction.
Certainement, tu as dit que je suis très humble. C'est les gens disent le contraire parce que quand je suis sur scène, je suis un acteur.
Oui, mais c'est autre chose.
Je suis un acteur, oui.
Ton humilité se mesure dès lors que tu sors de scène.
Je te remercie.
Et là, je peux en témoigner, elle est réelle.
Merci beaucoup.
Daniel Raveau. Raveau, ça sonne trinité.
C'est une enfance trinitéenne. Et effectivement, il y a beaucoup de Raveau à Trinité. Une enfance très heureuse avec une mère qui est exceptionnelle. Un père un petit peu rigide qui a forgé quand même une certaine droiture dans l'éducation. Et surtout, mes 8 frères et sœurs qui m'ont chouchouté dans la mesure où j'étais le dernier d'une fratrie de 9. Alors je suis un enfant béni parce que chez moi il y avait énormément de belles choses, c'est-à-dire la musique en permanence.
Vous souvenez-vous de votre première trompette ? Qui vous l'avait offerte ?
Alors, je peux commencer par le commencement.
Oui, bien sûr.
Très jeune, je jouais de la flûte à bec. Je devais avoir 5-6 ans. Je jouais de la flûte à bec. Très vite, mes frères et sœurs avaient d'autres instruments. Il y avait le piano aussi. Et j'ai joué un peu d'harmonica. Et mon grand frère, Manet, que je salue, était trompettiste de la fanfare de Trinité.
Oh.
Oui, donc de temps en temps, je lui volais la trompette pour voir si je pouvais en sortir quelques notes. J'avais 8-9 ans et je voyais que je sortais des notes. Et ceci donnait envie de continuer. Et il m'a été offert par un grand frère qui était militaire, un fifre. Et j'ai commencé à jouer du fifre, j'avais 10-11 ans. Voilà ce qui m'a permis... Et d'être à l'écoute de la musique, c'est que chez moi, mes sœurs étaient tout le temps à chanter encore à 3-4 voix.
Mais dessus. Ah, une ambiance de musique dans la maison en permanence.
Oui, parce que ma mère était adventiste, et ce qui est extraordinaire, c'est que les adventistes ont des morceaux bien arrangés, bien orchestrés, et il y a des cours de chant chez les adventistes. Moi, je ne m'en pas arrêté longtemps. Hein. Oui, ceci dit, il y avait toujours du chant chez moi. Et à 3-4 voix, etc. Et on se faisait le réel plaisir et l'honneur d'être dans une qualité. Et ma mère, elle chantait très bien. Et j'ai 2 grandes sœurs qui avaient des voix particulières et magnifiques. Voilà, donc... Hélas, j'ai pas hérité de cette beauté des voix, mais j'ai pu jouer de la voix avec ma trompette.
Est-ce que des copains de l'époque du quartier avaient pour habitude de venir chez vous pour participer à ces...
Non, il y a des amis de mes sœurs surtout qui venaient tout le temps chez moi. Et chez moi, c'était un lieu de rencontre, un lieu lorsqu'il y a 9 enfants dans une famille.
Oui.
C'est normal, c'est le lieu de rencontre.
J'ai connu ça, nous étions 7.
Ouais, voilà. Et des amis venaient, mais mes propres amis, me regardaient de loin, venaient chez moi, mais pas participer à la musique. D'ailleurs, j'ai un ami que tout le monde connaît, Paul Drané, qui me disait si mon
pas Pablo.
Oui, si mon pas joue musique, c'est pas faute de Daniel. Oui, oui. Donc, c'est vrai qu'il y avait une ambiance musicale et permanente. D'ailleurs, tous mes frères et sœurs sont musiciens, violonistes, pianistes, etc.
Alors, parle-moi de l'ambiance générale de Trinité à l'époque.
Alors, une chose formidable, c'est qu'il y avait très peu de radio, et nous avions le privilège d'avoir une espèce de gros...
Une radio à lampe.
Un gros bagaille. Fender, tout comme ça. Et nous prenions la radio... La radio Martinique émettait de 6h à 8h30, et ça recommençait à midi pour 14h, etc. Il y avait des coupures. Et nous faisions l'honneur de mettre les radios que la petite onde prenait, et en particulier Radio Cubana, Radio Margarita. Si bien que nous sommes imprégnés de la musique hispanophone et la musique cubaine, et nous sommes très heureux d'avoir pu ouvrir les fenêtres, tout ça, pour que les amis entendent la musique, heureux et presque honorés de pouvoir... Et lors des informations, il y avait des gens qui venaient écouter les informations à la maison. Il y avait dans la rue, dans laquelle la rue Fernand Clair, pendant presque 2-3 années, il y avait 3-4 radios. M. Vigon, M. de Chadirac et nous. Si bien que nous étions là où il y avait la source de la musique, où il y avait la source de l'information. Donc c'est quelque chose de...
Ah, ça a influé après sur tes choix musicaux?
Ah, certainement. Lorsque on baigne dans la musique cubaine, la musique latine, je crois qu'on ne peut pas en sortir dans la mesure où c'est une musique tellement bien élaborée, et tellement belle et tellement aimée par le peuple qui la joue, que c'est normal qu'on s'en imprègne et qu'on s'en approprie un peu. Je dis ça parce que quand j'avais 15 ans, il y avait une invasion d'orchestre haïtien dans les boîtes de nuit de la Martinique, et ça commençait aussi à marquer la culture martiniquaise.
Est-ce que des amis de l'époque ont suivi ce même parcours? Est-ce que ces influences-là ont également touché tes amis de l'époque?
Je te donnerai simplement trois exemples. Un premier exemple qui est, à mon avis, fort, très très fort.
Maurice Marie-Louise.
Maurice Marie-Louise, qui a appris à parler espagnol parce qu'il aimait la musique latine. Je vais le citer en moins, dans un degré moindre, Marcel Ravenet. Mais il y a aussi Soussout, Alex Cayol, qui est un féru de la musique latine, et qui, lorsqu'il entend cette musique-là, il est heureux lorsqu'il la joue, c'est le pianiste, il est heureux, il est vraiment bien sa peau dès qu'il a ce son-là, cette rythmique-là, surtout ces accords-là, et ces arrangements cuivres-là. Et il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce panorama musical. Je dis panorama pour ne pas dire cette ambiance, ces arrangements, tout ça qui font que cette musique-là est singulière.
Est-ce que tout jeune, toi, tes amis qui touchaient chacun d'un instrument, est-ce que vous êtes tenté par l'envie de monter un petit groupe de jeunes?
Mais très, très jeune, nous avions la chance, le bonheur à Trinité d'avoir la jeunesse culturelle de Trinité, MJC. Jeunesse culturelle de Trinité. JCT. La JCT, évidemment, il y avait beaucoup d'activités, des activités culturelles. C'était une association privée, loi 1901, à l'intérieur de laquelle des gens comme, je vais nommer certains présidents, je pense à Gaston Richer, etc. Et je pense surtout à la marraine de la Pavecta, qui est Joujou Banguio, Louise Marie Banguio.
Cette dame-là, j'en ai tellement entendu parler.
Mais elle est exceptionnelle au niveau de la voix aussi. C'est une chanteuse émérite. Mieux, elle est chef de chœur. Et elle est encore chef de chœur du haut de ses 78 ans, certainement. Pour dire simplement que très rapidement, nous nous sommes regroupés dans un petit orchestre, l'orchestre de la Jeunesse Culturelle de Trinité. Et comme les hispanophones comme Maurice Marcel, Soussoute, appréciaient et ingurgitaient Palmieri, Palmieri avait un orchestre qui s'appelait la Dimension Latina. La Perfecta Combination. Et nous, par orgueil, par volonté d'essayer d'atteindre ce niveau, nous nous appelions la Perfecta.
Carrément.
Mais nous, on avait 14-15 ans. Et Marcel, Soussoute à l'Escaillol, était un peu plus âgé. Et mon frère Manet aussi, de leur promotion. Si bien qu'on a, on a conçu à Trinité un orchestre, l'orchestre de la Jeunesse Culturelle de Trinité, que nous appelions, nous, la Perfecta. Et que se passe-t-il? C'est que nous sommes arrivés à animer les soirées dansantes de l'association la JCT. Et nous sommes même allés jouer plusieurs fois par semaine dans les villes avoisinantes, jusqu'à Saint-Pierre une fois. Et ce sont des souvenirs extraordinaires. On est 15 ans, et pourquoi je joue musique Saint-Pierre?
Ou presse internationale.
Ouais, exactement. C'est extraordinaire. Et on n'avait pas de basse, de contrebasse. Et c'est là que, plus jeune que nous, Roland Pierre-Charles a fait notre reconnaissance à Saint-Pierre. Et pendant qu'on jouait, il est allé prendre une contrebasse qu'il avait chez lui ou chez un copain. Et puis il a fait quelques notes de contrebasse avec nous. Et puis il avait intégré de façon parcimonieuse le groupe. Ouais. Et c'était le seul hors Trinité. Et je peux dire qu'on jouait la salsa, mais notre regard se portait beaucoup sur la Bananeraie, qui avait un orchestre qui s'appelait Tropicana. Et pour nous former, nous allions, avec Marcel Ramnicavelli à sa voiture, enregistrer avec notre petit graphophone les musiques de Tropicana.
Et pour les reproduire.
On revenait avec et on les reproduisait d'oreille. Et mon grand frère écrivait un petit peu, etc. Et voilà comment on s'est introduit dans la musique. Et je peux nommer des gens qui sont encore dans la musique. Il y a Raoul Charon, qu'on voit souvent sur les ondes
de la télé.
Il y a Maurice Marie-Louise qui a fait plusieurs albums. Il y a Marcel Ramné qui a été chanteur de la Perfecta pendant longtemps et qui avait son groupe après. Il y a Soussoute qui joue encore avec d'ailleurs Raoul Charon. Il y a Paul Petit Frère qui joue des percussions. Et Petit Georges Palin qui joue des percussions aussi. Il y a Joe Eugène. Il y a. Je ne veux pas en oublier, je préfère m'arrêter là et dire qu'il y en avait d'autres. Et nous avons tous continué dans la voie musicale. Il y en a qui ont arrêté, hélas, trop tôt, parce qu'ils étaient très bons.
Tu penses que c'est la même démarche qui a prévalu dans d'autres communes de Martinique? Je pense au Robert, je pense au Verpré, je pense à Rivière-Pilote, où il y a floraison de musiciens depuis cette époque.
Eh bien, je vais expliquer une chose. Tu as nommé deux communes, Trinité et Robert. Nous sommes deux communes voisines qui avaient chacune de ces communes avait une fanfare. Et la fanfare, c'est un lieu où les gens...
C'est une école.
Une école. Voilà. Il n'y a pas de conservatoire. Le seul endroit où on pouvait apprendre à jouer, c'était la fanfare. Nous avons tous fait partie de la fanfare. Hein? Donc, et arrivé plus tard, je ne sais pas, je ne connais pas...
Non, il n'y a pas eu de fanfare.
Vous n'avez pas eu de fanfare?
Non.
Non, mais... Je pense que la mouvance, c'était l'écoute de cette musique latino qui faisait...
Le rôle que vous avez joué chez vous, les frères Ravo, les frères et sœurs Ravo, dans notre famille, nous l'avons un peu joué. Ouais. La maison pastel, c'était un peu le cercle. Tout le monde y venait, tout le monde... On rentrait, on sortait, on écoutait la musique, on dansait. En tout cas, après, on ne fait pas...
Mais c'était des concours.
Carrément.
On apprenait à danser quand le tcha est arrivé. On apprenait à danser le tcha et on faisait, après ça, on apprenait à faire des choses singulières, chaque personne. Je me souviens que Tijon Chpalin qui dansait très bien, me provoquait, me disait au prophète Allah, Marie Louise, c'est ça quand Raphaël Ben Flap, il a dit Marie Louise, au prophète Allah, il a fait Ben Flap, etc. Il y a des choses comme ça, et nous aimions pas cette concurrence, mais cette simulation. C'est vrai, je voyais une véritable simulation, les gens étaient là, heureux d'appartenir à un groupe d'amis qui chantaient, qui jouaient. Ça. On ne touchait pas un centime. Hein.
Comment ?
On ne touchait pas un centime.
Non. C'était jouer de la musique pour le plaisir.
Lorsqu'on allait jouer dans les... Je sais que la MIC percevait un petit cachet presque signifiant, et ça restait dans les caisses de
l'association.
Ah oui, c'était l'amour de la musique, et l'amour de la musique.
Tel que tu vois les jeunes aujourd'hui, je sais que professionnellement tu as été très proche d'eux. Cet engouement, cette envie d'être ensemble pour faire quelque chose, pour créer, pour jouer de la musique, ça n'existe plus.
Ça existe. Je vais dire pourquoi ça existe. Et je vais prendre un exemple. Il y a un exemple extraordinaire. Qui est un exemple d'une association qu'il y a au Robert actuellement, qui est gérée par, je dirais, mon ami Olivier Rio et son épouse, qui sont deux métropolitains. Et dernièrement, je voyais les jeunes s'exhiber, se montrer, et j'ai compté des enfants qui avaient entre 9 et 13 ans. J'ai compté 17 trombones à coulisses. Je répète, j'ai compté 17 trombones à coulisses. Je ne parle pas des autres instruments, saxophone, etc. Et il est multi-instrumentiste, c'est le docteur en musique, hein, Olivier, sa femme aussi. Sa femme est multi-instrumentiste, du violon jusqu'au sous-bassophone, jusqu'au corps. C'est-à-dire que, de façon multiple, hein. Et ils font c'est presque un conservatoire. Et chaque année, ils font venir des amis en Martinique. Un, pour évaluer leurs élèves. Deuxièmement,
pour faire des masterclass.
Pour faire un concert. Mais c'est à voir. Ça veut dire qu'il y a une simulation qui est faite. Mais, et ce qui est formidable, c'est que cette association que ces gens ont créée offre des instruments aux enfants. C'est vrai, des instruments... pas trop cher, parfois les trombones en plastique, mais qui a un bon son de trombone. Moi, j'ai une trompette en plastique, c'est me rajouter des fois. Et ceci dit, il y a une simulation qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, pendant ces vacances-ci, les deux remplaçants des absents, Olivier Rieu est parti à un moment, et c'est un de ses élèves de 19 ans qui l'a remplacé dans la Perfecta. Et la PFETA a des parties trompettes qui ne sont pas évidentes. Je répète qu'ils ne sont pas évidentes. Et il y a un petit jeune au trombone, Marilus, qui est excellent. Il a 19 ans aussi. Il aura 20 ans, bientôt. Et il vient de passer d'ailleurs un concours avec une mention. Et il va commencer, évidemment, des études de musique bientôt.
Daniel, comment êtes-vous passé de la trompette au trombone à piston ?
Eh bien, c'est une histoire qui est très belle. Presque ridicule. Presque insolente. Une histoire dans laquelle je me suis...
piégé.
Oui, je me suis jeté. Il y avait Claude Sétros-Rosemont qui était trombone dans la Perfecta. Et Claude Sétros-Rosemont devait partir... en congé bonifié. Et nous avions la singularité d'avoir trombone et sac bariton. Je me suis dit, ah non, il ne faudrait pas que nous soyons sans trombone. Et je le salue d'ailleurs, M. Roger François, qui est du Terpsichore. Et nous sommes en 1974. Et je lui ai dit, il faut prendre un trombone. Mais il reste bien mon passage de trombone. Mon passage de trombone. Mais ma trombone, la semaine prochaine, ma répétition au trombone. Donc, il faut que je sois trompettiste. C'est comme ça que on a convié un trompettiste pour me remplacer. Je suis passé au trombone. Évidemment, pour passer de cet instrument-là, c'est comme si on a une main qu'on caresse sur la bouche et une aiguille. La différence d'embouchure est énorme. Donc, lorsqu'on sortait du trombone pour passer à la trompette, c'était impossible. Eh bien, comme ça, un jour, mon frère Manet me dit, il faut alterner tout le temps, pour essayer de... Et en alternant comme ça, j'ai commencé à jouer du trombone et de la trompette. C'est comme une envie forte. Je me suis dit, si j'ai les accords, c'est ma trombone. Pour moi, une trombone traditionnelle aussi. Et je commençais à écouter les trombonistes qui avaient enregistré. Et quand j'ai écouté Aliova, je me suis dit, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est plutôt celui d'avant.
D'avant, oui.
Celui d'avant qui m'intéresse. Et je suis allé écouter Pierre Racine, de ma voiture étant. Je n'entrais pas au manoir. De ma voiture étant, j'écoutais Pierre Racine, qui accompagnait à un moment Émile Nartil, et à l'autre moment, Barrel Copette. J'ai écouté. Et j'ai essayé de faire une synthèse de tout pour avoir ma manière de jouer. Et j'étais très 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 heureux quand Michel est entré dans l'orchestre et que lorsqu'il a joué « Why, vini wa kulia, why, kulia » j'étais au trombone. Et ça se fait où la première fois? À un bal de la Gauloise, parce que Marcel Chantelli, Tonton Marcel, qui nous aimait énormément, avait choisi de partir de la Perfecta pour aller avec un autre groupe. Et Roland Pierre-Charles nous a dit, « Moi, il y a un camarade qui a joué clarinette. » Et Roland Pierre-Charles est allé chercher Michel. Et dans l'espace d'une semaine, nous avons répété 4, 5, 6 morceaux avec lui. Et le deuxième bal, la semaine d'après, c'était
Arrivé à Pilote.
Le bal du Racine Club d'Arrivé à Pilote. Et là, il connaissait déjà 10 morceaux. Et il est passé au saxophone, et au saxophone ténor, au saxophone alto, et au saxophone baryton. Et nous étions le seul groupe antillo-guyanais à avoir un saxophone baryton et un trombone.
Daniel, nous allons faire une petite pause en musique. Je te laisse le choix du premier morceau.
Alors, je serais très heureux d'oublier mon humilité et de proposer un morceau que j'ai composé qui s'appelle « Enfants la vie ». Qui est sur le dernier album de Perfecta, mais qui aussi, il y a une version aussi sur le Perfecta Mania.
Léo a songé, ça nous taille et ça nous taille. En jadeant, en plein level de Dieu, anti-mamaï, anti-sous-sky, ça tout mounier, léoné. Avant la vie, veille au grandit. Léo qui a songé, vitalité au fécond. Journal, yo di grand monde qu'a fait yo mal. Ça qui était l'humanité, si nous pas les comprenons. Les enfants, la vie, c'est ça, nous ni. Faut que nous baillons tout ça qu'il faut. C'est plus haut, c'est plus loin, yo kawé. Faut que nous baillons pour ça, yo beau. Sans défaut, c'est plus loin nos kawais. La vie baillo en chance, qui d'avance, baillon doit profiter, c'est yo pour respecter. Léo qu'a songé, ça nous taille, ça nous t'aime. Tu m'en mailles nous, c'est yo que tu renoues dans.
fok nou rive, san nou tade, fè yo monte la yone. Zanfan la vi, se sa nou ni.
Le lundi soir sur Fusion, salon privé.
Vous êtes dans salon privé, jusqu'à 23h. C'est sur Radio Fusion 95.3, 103.2 et 99.3. Nous avons ouvert les portes de notre salon à 21h à Daniel Raveau pour ne les refermer qu'à 23h. Daniel Raveau qui est notre invité ce soir et que nous sommes très heureux de recevoir. Daniel, à Trinité, à l'époque, une bande de jeunes, ça ne fait pas que de la musique, ça fait des bêtises aussi. Tu vas pas me dire non.
Je te dirai simplement beaucoup. Beaucoup de bêtises. C'est vrai que nous étions relativement respectueux des adultes, mais entre nous, on faisait des bêtises. Je te donne un exemple. Il y avait la fête de Trinité. Et par malheur pour le propriétaire, il démontait en partie son cheval bois.
Le Pierre Sénat.
Je ne sais pas son nom. Les dérivés. Cheval bois monté. Impeccablement.
Et les soins écartounés.
Écartounés à la. Et partout, il a volé. Non, c'est un exemple. Je donne un deuxième exemple. Lorsque nous rentrions dans un champ de canne. Alors, on était 5-6. C'était jamais seul. Après, ça avait une clairière, là, on était assis. Ça veut dire qu'on avait mangé de la canne, du béquet, au point qu'on avait une clairière. Et il y avait des gardes-chasse en ce temps-là. Et plutôt que d'avoir peur des gardes-chasse, lorsqu'on voit un gardes-chasse, on se moquait du gardes-chasse. Et comme il était à cheval, un cheval qui marchait pas, qui courait pas autant que nous, on avait réfléchi. On partait dans des directions différentes. Et lorsqu'il ne savait plus que faire, bon Dieu, le pauvre. Il jouait nos grands-parents, nos aïeux, etc. Mais jamais, il ne nous a jamais tenus. Et puis une fois, hélas, il a tenu un autre nom. Je ne vais pas le nommer. Si tu écoutes...
La question que j'allais te poser, tu aimes pas Ola, comme oui, dirait mon ami oui. Mano, dans chaque commune, c'est le cas. Il y a prescription. Qui est-ce qui t'est plissuré?
Ah, on parle de manchot, hein. On parle de manchot, mais c'est ni pour pisser, quand même. Mon père est nommé Noy, mon rabatti Noy, au Cambol de Siré. Ah, au Cambol de Siré. Et puis, comme il était fort au cristal, il était gagné au tech cristal. Je suis gros, c'est plus cristal, mais le pari était cristal. Soit, etc. Non, mais pour dire que lorsque on a tenu un de nos amis, l'ami était forcé de dénoncer tous. Mais il n'a pas dénoncé les 8 qui étaient avec lui, il a dénoncé 3. Et en ce temps-là, il y avait le tribunal de grande instance à Trinité. Et il se retrouve au tribunal de grande instance avec ses 3 amis. Mais nous étions 45 à l'intérieur. Un tribunal qui contient 20 personnes. On a commencé à chahuter. Pendant le tribunal, on commence à chahuter. Nous sommes dehors à chahuter, etc., etc. Ça veut dire que c'est une solidarité que nous manifestions. Il y a un monsieur, un gentil monsieur, qui était dentiste de formation, mais qui avait cultivé des raisins. Au haut du résinier, il avait cultivé des raisins. Ces raisins étaient plus belles qu'ils étaient en France. Ils étaient plus doux qu'ils étaient en France. Et nous allions nous servir. Mais on allait évidemment le soir. Et après avoir dégusté quelques raisins, nous allions au résinier prendre le verre. Et comme il ne fallait pas que les parents voient qu'on s'était baigné à la mer, on déposait notre vêtement sur la plage et nous attrions tous dans la mer à poil. Il y a un gars, je vais le nommer celui-là, Guy Rubini. Il a pris tout le vêtement et puis il est parti. Il est parti avec. Et nous nous sommes mis à marcher au pas. entre le résigné et la savane, en chantant.
Nu.
Nu. Et lorsque nous sommes arrivés près de chez l'ancien maire, Réjean, l'épicé. ça veut dire que, dit-on, mais on faisait ça, mais pas dans un esprit s'amuser, et c'est tout. Avec, malgré qu'on avait tout le respect pour M. Réjean, etc. Et qui avait déposé tous les vêtements sur un banc, et puis il y a Morelli, parce que nous sommes tous les pays. Voilà, ça veut dire qu'on n'était pas tellement sage que ça.
Est-ce que le choix de la trompette a été mis en balance avec d'autres instruments ?
Si, c'est normal. Je te répète que j'ai la chance d'être le dernier d'une fratrie de neuf. Et j'ai un grand frère qui avait acheté un saxophone soprano. Je jouais déjà de la trompette, j'avais 17 ans. J'avais 3-4 ans que je jouais de la trompette. Il arrive en vacances avec un soprano. Il pourrait déposer le soprano, mais après il m'a essayé de jouer. Qu'est-ce qui se passait, ça qui est formidable là, c'est qu'à m'arriver, comme je veux de la flabec déjà, c'est à peu près le même système. Mais je ne comprenais pas encore les dièses et pour monter la gamme chromatique. Et puis un jour, je suis arrivé à faire ça. J'ai trouvé toute la nomenclature. Je me dis, ah, comme mon frère, c'était un gars qui portait toute la journée, bourré en vacances, hein. Il est revenu, je lui ai dit, viens écouter ça. J'ai joué la gamme chromatique. Il m'a dit, c'est tard. Il m'a offert le saxophone soprano. Eh bien, quand j'avais l'orchestre de Trinité, je jouais du fifre, je jouais de la trompette et je jouais du soprano. Donc, j'étais heureux de pouvoir jouer. Et il y a un morceau, j'oublie le nom de l'auteur, de l'interprète, qui s'appelle Teuf. C'est un morceau qui joue au soprano, et évidemment, quand on a un soprano chez soi, on ne pouvait pas ne pas apprendre Petite Fleur. Bon, donc ces deux morceaux-là, je les ai appris rapidement, avec en écoutant, réécoutant, et puis en essayant d'imiter au maximum, mais c'est des Béchettes et l'autre côté peut être de Teuf. Et on voit ça au bal, donc je joue trompette, soprano et fifre.
Ah ouais, intéressant.
C'est pour ça. Non, mais il y a du bonheur dans ça. Le bonheur, c'est que lorsque tu as fini de jouer, terminé de jouer, les applaudissements, ils portent de bonheur bis.
C'est la première récompense du musicien.
Ouais. Ah oui. Tu as peut-être un coup. Et c'est vrai.
Avec tous ces talents en herbe à Trinité, est-ce qu'il y a eu derrière un accompagnement, une école de musique, quelque chose qui vous aide?
Alors, dans mon temps, il y avait une dame qui sortait du Marigot, qui était d'ailleurs la femme du maire du Marigot, qui venait donner des cours de piano à certaines personnes capables de payer relativement cher. Et comme les enfants étaient à l'école, c'était surtout le samedi après-midi. Et pour un quart d'heure, une demi-heure de cours de piano, ça coûtait une petite fortune par semaine. Donc les privilégiés ont pu en faire. Et puis après ça, il y a eu l'école qui existe jusqu'à ce jour, de Serge Boulette, hein, qui s'appelle Diapason, à Trinité, qui a formé quelques musiciens, qui forme encore quelques musiciens. Mais heureusement que les amis dont je t'ai parlé, Olivier Rieu et son épouse, sont dans le secteur parce que les cours sont quasiment gratuits. Je dis bien quasiment gratuits. Les instruments sont le plus souvent donnés à ceux qui n'ont pas de sous. Et il y a un suivi très régulier des gens avec des passages de niveau.
D'accord.
C'est vraiment pas la même chose. De mon temps, je dis franchement, et M. Gravier, pour m'apprendre à jouer de la trompette, M. Gravier a été mon professeur de trompette, et pour un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration et d'amour. M. Gravier a appris à jouer de la trompette pour m'apprendre à jouer. Et mon frère, j'avais la chance d'avoir mon frère à côté. Et il y avait d'autres musiciens qui étaient très doués. Je vais les nommer. Il y avait un gars qui s'appelait Marcel Desroses. Il y avait un gars qui s'appelait aussi Marcel Dauvin. Et Alex Garnier, qui étaient doués, très doués. Et puis, brusquement, ils ont abandonné. Ils ont abandonné, je ne sais pas pourquoi. Par timidité, par je ne sais pas quoi.
Parfois, on abandonne parce qu'on a l'impression d'être arrivé au bout de ce que l'on peut faire.
Hélas.
Sauf que s'il y a un accompagnement,
voilà.
On avance,
voilà. Et d'ailleurs, parmi ces gens que j'ai nommés, il y a un d'entre eux qui a sa fille qui a fait le conservatoire comme soprano, etc. Et sa fille était très douée, il a poussé sa fille, une grande soprano de musique classique en France.
Toutes ces expériences ont un petit peu prédestiné ta carrière professionnelle ? Pas vraiment ?
Pas vraiment. Je vais expliquer les choses très, très, très simplement. Depuis très jeune, j'ai envie d'aider les enfants. Et ma première expérience en tant qu'enseignant même a été dégueulasse. Et je me suis mis à faire la musique en semi-professionnel avec la Samabrico. Et j'ai entendu parler d'une place d'éducateur qu'il y avait avec formation à l'appui. Rapidement, j'ai opté pour cela. Et comme j'avais deux ou trois personnes qui m'aidaient à prendre ce poste, il faut avouer que le fait de je jouais déjà de la musique, hein, dans le temps abrico, le fait d'avoir joué de la musique, ça m'a donné une priorité sur d'autres personnes. J'ai eu ce poste. Et j'ai fait ma formation d'éducateur spécialisé après.
Les choses ont évolué depuis.
Ah oui.
Les enfants de maintenant ne sont plus ceux d'hier.
Les enfants... Attends, je préfère te dire que les parents d'abord ne sont plus ceux d'hier. Mais en disant ça, il y a, je te dis franchement, il faudrait que nous regardions, nous qui avions cet âge-là. Parce qu'en 68, nous étions jeunes, 23 ans. En 68, 23 ans. Et nous étions dans cette querelle sociale qui a bouleversé certaines autres choses, qui a fait de la liberté une anarchie, même sexuelle. Et il faudrait qu'on se regarde pour dire que s'il y a eu cette décadence, peut-être que nous sommes aussi fautifs.
La génération d'avant a sa part de responsabilité.
Oui. Et je connais des parents qui ont le même âge que moi, qui ont continué à œuvrer dans l'éducation de leur enfant dans l'anarchie. C'est-à-dire, on peut faire ça rouler, on doit faire ça rouler. Et je pense que l'éducation, c'est aussi orienter, aider, donner la main. Et hélas, il y a trop de parents qui ont abandonné. Je donne cet exemple parce que après ça, j'étais éducateur et puis responsable d'un établissement. Il y a un parent qui m'a dit une fois, avec des mamans, hein, où tu es bien quand ton enfant est handicapé. Je ne dis pas le moment. Et tu te remercier. Mais pourquoi? Parce que j'explique à cette dame, voilà l'œuvre que votre fils, qui ne sait pas lire, a réalisée. Et même le psychologue se pose des questions, par quelle magie il a pu mesurer. Et le tribunal avait fait quelque chose, et le psychologue et le psychiatre étaient en train de réfléchir de quelle manière il avait pu réaliser. Il avait réalisé seul. Et bien, quand j'ai dit ça à la maman m'a envoyé paître. J'ai dû appeler une collègue. Parce que la maman a répété les mêmes mots. Oui, Mradou, vous êtes bien content, vous faire un handicapé pour te gagner la honte. Et hélas, ce petit bonhomme qui était très doué, d'ailleurs, qui a été très doué aussi comme gardien, et qui a joué comme gardien en cadet, presque encadré joueur junior de Rivière Pilote. Mais il s'est noyé à, il s'est noyé dans un mètre d'eau à l'Anciguet. Et il nageait comme un poisson. Trop peu de suspension. La maman n'a pas, n'a pas pu accepter, il s'est noyé en mai. La maman n'a pas pu accepter que son fils, qui était handicapé, qui ne savait pas lire et écrire, et pour réaliser des choses, et pour une tracouille, une aigne. La maman avait tourné le dos au petit bonhomme. Le petit bonhomme a souffert de ça. Et le petit bonhomme était doué pour un tas de choses, y compris le sport, y compris vraiment, vraiment doué. Ceci dit, j'arrête là. C'est pour dire que les parents ont une grande part de responsabilité dans la déchéance actuelle des jeunes.
Quelles ont été les plus grandes satisfactions au cours de votre carrière professionnelle?
Ah, oh, j'en ai eu. Dernièrement, je reçois en janvier, un agenda de mes élèves, parce que j'ai travaillé au Clairlogis. Au Clairlogis, il y avait des jeunes qui étaient considérés comme délinquants. Mais délinquants, si on avait fait, en ce temps-là, lorsqu'on avait fait une petite bêtise, le juge des enfants t'envoyait au Clairlogis. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui avaient... Par exemple, il y a un jeune qui, son beau-père battait sa maman, il pichait. Il est rentré au Clairlogis. Pour moi, ce n'est pas un délinquant. Et c'est un petit bonhomme qui était très intelligent. Eh bien, je ne veux pas dire de quelle commune, mais ce jeune homme-là, il est mieux que moi. Hein. Je peux te dire qu'il est mieux que moi, et financièrement, et socialement. Ok ? Et ce jeune-là, c'est un grand homme à présent. Ouais. Et c'est pas qu'un exemple. Je regarde, même à Rivière Pilote, où je travaillais avec des déficients intellectuels, le nombre de jeunes qui ont réussi, mais qui ont réussi leur vie. Parce qu'au départ, leur déficience scolaire, c'était une réaction par rapport à la problématique familiale et qu'on a pu lentement trouver, pour lesquels on a trouvé des solutions de remplacement, de transfert, etc. Que se passe-t-il? Ces jeunes-là ont réalisé qu'ils étaient capables et maintenant ils sont arrivés dans la vie. Ils sont maintenant bien dans la vie. Des enfants qui étaient considéré comme...
Qu'est-ce qui détermine le placement dans cet établissement?
Il y a une commission très, très compétente. Lorsque l'enfant ne sait ni lire ni écrire, en ce temps-là, là où il va à 8 ans, face à lire et écrire ou handicapé. Hein. Donc, on demandait une mesure d'aide. En passant éventuellement par un IME, un IMP, un IMPRO, etc. Et il y a une commission spécifique à l'Université nationale qui est là pour ça, et il y a des réunions, et il y a des groupes de gens qui discutent, qui voient le dossier, et qui décident ou non du placement d'un enfant.
Les parents n'ont rien à dire?
Le plus souvent, les parents sont déjà démissionnaires. Mais il y a aussi des parents qui demandent. Il y a des parents qui s'opposent. Quand le parent s'oppose, l'enfant reste en classe, dans la souffrance, des moqueries, etc. Alors il y a un choix à faire qui n'est pas évident. Je connais des enfants qui sont restés à l'école et qui ont échoué plus que les enfants qui étaient venus en institution.
Dans salon privé ce soir, quel sera le deuxième titre choisi par Daniel Rave?
Eh bien, je me permets encore de penser à moi. Il y a un morceau que j'ai composé en 1970, qui s'appelle Clair de lune à l'escale, et les paroles ont été un peu écrites par Marcel Ramené, simplement parce qu'on était à l'escale dans une répétition en décembre 70, et puis la lune a levé ces îlettes-là. Et la lune était grosse comme 5 têtes. Et c'était magnifique. Et le lendemain, le surlendemain, j'ai amené des bribes de ce morceau. Et la partie guitare, d'ailleurs, a été faite par Fred Norbert. Hein, et voilà, c'est un morceau que j'aime beaucoup et qui est resté longtemps premier rue de parade de la Martinique.
Salon privé.
Depuis 21h, nous sommes dans Salon privé. Nous sommes dans Salon privé avec notre invité de soir, Daniel Raveau. Daniel Raveau qui vient de nous offrir la possibilité d'écouter une belle de ses compositions. Clair de lune.
À l'escale.
Alors pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ont moins de 50 ans, l'escale, c'était une paillote en bord de mer du Robert.
Même pas une paillote, un restaurant.
Un restaurant. Un restaurant, mais vraiment en bord de mer.
En bord de mer. Dans la mer.
Dans la mer, où jouait la Perfecta.
Et où Inès Pastel a chanté des morceaux.
C'est vrai?
Ah oui!
je ne m'en souviens pas.
C'est là.
Daniel, quelle est ta vision globale de la jeunesse d'aujourd'hui?
Alors, je vais dire deux choses très contradictoires, très contraires, très opposées. La jeunesse d'aujourd'hui a la chance d'avoir énormément de possibilités d'explosion intellectuelle parce qu'ils ont un matériel.
Et pas des outils qui leur manquent.
Oui, ils ont des outils, ils ont un matériel qui permet vraiment de faire un certain nombre de choses. Mais quelle utilisation en faire? Et comment aider à bien utiliser tous ces outils? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et je vais prendre l'exemple d'un jeune qui avait fait la prison et qui m'a dit, vous pouvez me sauver, faut manier un bac plus toi, il y a un chômage. L'effet, il a mis en main, il n'a pas fatigué à manger. Tous les jours, il me ramène à la prison. Ça veut dire qu'il y a un découragement de ces jeunesses par rapport au climat social, par rapport aux difficultés sociales. Et quand on est en face de ces deux problématiques-là, la possibilité d'avoir et les capacités d'avoir, on est dans un conflit avec l'autre. On devient asocial, où le pire, c'est que des fois, des jeunes qui sont doués dans beaucoup de domaines, hélas, périclite et ne peut pas s'en sortir. Je vais vous donner un deuxième exemple. J'ai un ami qui est policier et qui passe dans un quartier de Fort-de-France à pied pour aller récupérer sa voiture. Il se fait agresser parce qu'il avait une chaîne. Il se fait agresser parce qu'il avait une chaîne par quatre jeunes. Et il y a un jeune qui avait un... Comment ça s'appelle? Le point là.
Un faux point américain.
Un faux point américain. Il lui a cassé la mâchoire.
Wow.
OK? Et pourtant, ce gars-là, comme on dit, il y a un état. Mm. Bon. Lorsqu'il est sorti de là, il a essayé d'aller voir ce groupe-là, de discuter avec eux. Il dit, ferme une gueule. Ça veut dire que les jeunes n'arrivaient même pas à comprendre que, malgré la souffrance et le truc, que le gars venait encore leur demander de faire un effort.
Qu'est-ce qui nous a emmenés là?
Alors, ça, c'est cette grosse machine qui s'appelle l'argent. La grosse machine qui s'appelle l'argent est devenue maîtresse du monde. Maîtresse. Même des hommes politiques. Pourquoi il y a tant de gens qui sont mis en examen pour l'argent? Et les jeunes veulent gagner de l'argent. Et un jeune qui m'a dit, mais ça regarde moi, me regarde un jour. Comme ça qu'il m'a dit ça. Un élève qui m'a dit, ça regarde moi, me regarde un jour. Me ravine ici à faire ça. Me ravine ici à péter ta main. Ça veut dire qu'il y a, une force magique qui s'appelle l'argent. Le seul objectif, avoir de l'argent. Par quelque moyen soit-il, qu'il soit bon ou mauvais. Avoir de l'argent. Et, hélas, tristement, ça fait des personnes qui sont mal dans leur peau, mal dans tout.
Alors, comment s'en sortir, Daniel?
La question est très difficile. Parce que tu donnes à cette personne-là qui gagne de l'argent en faisant des choses négatives, tu donnes un travail, qu'est-ce qu'on fout de ça? Et qu'on va continuer jusqu'à ce qu'il aille en prison. En prison, il va en sortir. Je ne sais pas. Je t'avoue que parfois je réfléchis, je dis...
Est-ce que notre jeunesse n'a pas besoin de rêves, d'utopie? Est-ce qu'on leur offre des perspectives?
J'ai un ami que tu connais très bien, je vais le nommer. C'est un saxophoniste vraiment que j'aime beaucoup. Tinom. Je ne sais pas si tu connais Tinom. Tu ne connais pas Tinom? Victor Thermé.
Ah, Dugui Sandrier.
Oui. Dugui Sandrier. Il me disait une fois, Daniel, tu sais une chose. Quand nous étions jeunes, le plus souvent, papa allait travailler et maman restait éduquer les enfants. Même si c'est papa qui reste à la maison pour éduquer les enfants, que maman aille travailler, s'il y avait une des deux personnes qui restait, qui était plus sécurisée, plus...
Il y avait une autorité.
Ouais. Et qu'est-ce que se passe-t-il? C'est que il expliquait que tout le monde allait gagner l'argent, tout le monde est autonome, et ce sont les enfants qui sont délaissés, abandonnés. Il explique, et je regarde Toto, et je lui dis, vous prenez une raison 100%, mais foutez une raison quand même. Ça veut dire que l'enfant n'est pas accompagné, l'enfant ne goûte pas au bonheur d'aimer, au bonheur d'être aimé. L'enfant ne goûte pas au bonheur d'avoir une autorité qui lui dit, non, ne fais pas ça, parce que... Et le non ne fait pas ça parce que c'est un nom d'amour. Et là, quand les gens comprennent ça, quand les jeunes comprennent ça, le jeune s'en sort. Ça veut dire que le parent est arrivé à faire sa mission. Mais il y a tellement de gens. Leur petit moment à la rentrée, et puis en bail qui bataille. L'enfant ça ! Plutôt que, viens un peu s'il te plaît, hein, discutons. Donc, notre société est devenue malade. Hélas, heureusement, nous regardons souvent, trop souvent, ceux qui ont échoué. D'ailleurs, pour faire des études, on commence par te dire quelle est la problématique de ta recherche. Quelle est la problématique de ta recherche? Non pas quelle est la réussite qui a fait que. C'est-à-dire que même dans la réflexion, on recherche la problématique. Et nous allons acheter un journal lorsqu'il y aura des tas de choses négatives là-dedans. Oh, mais c'est pas ça. Eh bien, mais Marion, non, mon journal là. Mais lorsqu'il y a quelque chose de positif, on n'aura même pas le journal. Ça veut dire que le monde s'est créé par les choses négatives. La réaction humaine est devenue une réaction parce qu'il y a du négatif. Il y a des choses qui font que... Même un bras de 80 ans, mais c'est le bras de Baïtala, sans réfléchir, sans calculer. Bon, c'est simplement pour dire que trop, on prend trop les choses négatives pour les amplifier. Et puis, quand un jeune a fait une très bonne chose, les gens ne lisent même pas la belle chose que... Hein. Alors, c'est vrai que... Excuse-moi. Mais, une fois, il y a un parent qui avait violé sa fille. Mon achat journal la contipé. On ne nommait pas la fille, hein, évidemment. Mais comme le gars était jugé rapidement, on a mis en cour ce jour-là. Et quand la petite fille a réussi après, malgré ses souffrances, personne n'en a parlé. Personne n'a dit, cette petite fille, malgré sa souffrance, malgré le tort énorme de son parent, elle a réussi sa vie. Elle est telle chose maintenant. Personne n'a dit ça. Ça veut dire que les bonnes choses ont moins d'importance que les mauvaises choses.